carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans cette émission Carrefour des Arts pour découvrir la demeure catalane du maréchal Joffre. Né à Rivesaltes en 1852, Joseph Joffre se révèle un élève brillant et entre à l'école polytechnique à 17 ans. Embrassant la carrière militaire, il choisit l'arme du génie. Il devient maréchal et entre à l'Académie française en 1918. Le général Cortal, directeur du musée Joffre à Rivesaltes, nous a ouvert ses portes et il raconte l'homme aux yeux bleus et au franc parler. Il nous apprend que c'est Joseph Joffre lui-même qui a créé l'armée américaine ou encore installé les infrastructures de la ville d'Hanoï au Vietnam. De quoi revenir sur ce parcours incroyable dans quelques instants au micro de Canal Académie.
Nous sommes dans le musée du maréchal Joffre à Rivesaltes, la petite ville où il est né le 12 janvier 1852. Dans sa jeunesse, bien sûr, il fait les écoles locales et le collège de Perpignan, qu'il, compte tenu de ses qualités d'intelligence et des résultats qu'il obtient, où il obtient des premiers prix, suggère aux parents de l'envoyer à Paris ou au lycée Charlemagne. Il va préparer les grandes écoles. Entre autres, il prépare Polytechnique. À 17 ans, il y est reçu 14e sur 132, le plus jeune de la promotion. Pendant qu'il est en première année de Polytechnique, ça se passe en 1869, on se doute que 70 est après et que la guerre est déclarée. Donc la promotion est mobilisée et va participer à Paris, à la défense de Paris. Joffre est à ce moment-là affecté dans un régiment d'artillerie. Bon, la guerre terminée, et la promotion est rappelée à Polytechnique pour faire sa deuxième année. Il en sortira en 71, et il choisira le génie comme arme de sa carrière. Bien sûr, on pourrait développer dans le détail tout ce qu'il a fait dans la carrière, mais la partie la plus importante, c'est ses trois campagnes coloniales. Ces trois campagnes coloniales, il va les passer de 1885 à 88 en Indochine et à Formose, dans un premier temps sous les ordres de l'amiral Courbet, car c'est l'époque où nous sommes en conflit avec la Chine. Courbet vient de détruire la flotte chinoise à Fuzhou et replie son escadre au nord de Formose dans un port qui s'appelle Keelung, mais qui est un peu comme le port de Port-Vendres, sans défense particulière. Donc, il appelle un spécialiste du génie à la hauteur de la tâche qu'il va lui donner et on lui envoie Joffre. En 1885 début, il doit donc fortifier Keelung. Il faut savoir que Keelung est au nord de Formose. C'est un petit port mal fichu et entouré par une jungle. Donc il faudra que Joffre se débrouille avec les moyens du bord. Quand je dis du bord, c'est à terre. Avec la forêt qui est une véritable jungle, la travailler pour y construire des blocos, des cheminements de circulation et près du port, des habitations pour les fusiliers marins de l'escadre de l'amiral Courbet. Tout ça, il le réussit en un trimestre. Courbet est tellement satisfait qu'il lui fait accorder la Légion d'honneur. Mais le conflit avec la Chine s'arrête. On se rappelle le traité de Tientsin en 85, juillet, et Joffre, qui est du génie, bien sûr, se retrouve au Tonkin, où il va pendant 3 ans équiper le Tonkin d'hôpitaux, d'infirmeries, de voies de circulation, de digues, etc. Donc tout cet équipement, d'ailleurs, quand on se promène à Hanoï, eh bien, on les retrouve, car ils sont toujours debout. Mais entre-temps, il y a eu un conflit intérieur avec ce qu'on a appelé à l'époque les pavillons noirs. Et ces pavillons noirs s'étaient retranchés dans un village, un important village qui s'appelait Bading, au sud de Hanoï. Et Joffre participe à l'opération. Et dans un premier temps, difficulté pour enlever le village que les pavillons noirs avaient fortifié, mais Joffre a l'idée d'amener du pétrole, de mettre le feu aux bambous autour du village, et ça permet de réussir à enlever le village et à abattre tous les pavillons noirs. Le conflit se termine. À la fin de son séjour, bien sûr, il est rapatrié en France et affecté à Satory, au sud de Versailles, dans un régiment qui est le 5e régiment du génie et qui est spécialisé dans les chemins de fer. Et donc là, il va se spécialiser chemin de fer et ça va l'amener à sa deuxième campagne coloniale. Joffre est envoyé au Soudan, car au Soudan, qui actuellement s'appelle le Mali, au Soudan, il doit refaire la voie ferrée qui avait été débutée pour rejoindre Dakar à Bamako sur le fleuve Niger. La première réalisation de la voie ferrée n'avait pas été suffisamment travaillée, de telle sorte qu'une grande partie du parcours doit être refait. Initialement, cette voie ferrée était traverse en bois que les pluies, les marécages avaient détruite, et donc la voie ferrée n'était pas utilisable. Lui, Joffre, refait l'itinéraire de parcours en évitant toutes les zones géographiques qui pouvaient entraîner des difficultés. Il remplace les traverses par des traverses métalliques. Mais pendant le même temps, le gouverneur veut prolonger l'expansion coloniale de l'époque vers Tombouctou. Tombouctou qui est sur le Niger, au sud du Sahara. Tombouctou, c'est le point de rendez-vous, disent les Arabes, des chameaux et des pirogues pour le commerce de l'encens. Donc une opération est montée par le gouverneur, qui est le colonel Bonnier, et l'opération lancée, Bonnier suit le cours du Niger pour se rendre à Tombouctou et il donne comme mission à Joffre de commander l'élément terrestre qui va longer le Niger jusqu'à Tombouctou par sa rive gauche. De très grandes difficultés, la colonne de Joffre comporte environ 1200 hommes, deux compagnies de spahis, un escadron de cavalerie, une petite batterie d'artillerie, des cinquantaines de mulets transportant la logistique de la colonne Bonnier. Quand il arrive, il y a 800 km à parcourir. Quand il arrive à Tombouctou, il apprend que la colonne Bonnier a été massacrée par les Touaregs. Et il est lui-même obligé de combattre les Touaregs. Il y parvient rapidement et occupe Tombouctou et répand son action sur un périmètre de 300 km environ. Au bout de quelques mois, les Touaregs demandent la manne, c'est-à-dire se rendent. Après son retour en France, il est à nouveau envoyé dans sa troisième campagne qui sera axée sur Madagascar. À Madagascar, le général Gallieni est le gouverneur général après avoir conquis Madagascar. Il demande un supérieur du génie de qualité et le général Lyoté lui conseille Joffre. Donc Joffre, en 1899-1900, est envoyé à Madagascar à la disposition de Gallieni. Et Joffre réalise au nord de Madagascar, à Diego Suarez, une base navale qui existe toujours. Alors qu'il n'a pas encore terminé les travaux de Diego Suarez, il est nommé général de brigade à partir de 1902. Toute la période jusqu'à 1910 le voit passer, bien sûr, de général de brigade à général de division, avec un certain nombre de missions successives d'importance qui prennent de plus en plus d'importance. Il commande la 19e brigade d'artillerie, puis devient le directeur du génie, puis la 6e division d'infanterie, puis l'inspection des écoles, puis le 2e corps d'armée. Et en 1910, date importante pour lui dans sa carrière, il rentre au Conseil supérieur de la guerre. Alors, 1910, il est affecté au Conseil supérieur de la guerre. Et de 1910 à 1911, il va être chargé de l'intérieur en tant que territoire français, de la partie intérieure. Et à la suite de ses contacts avec l'armée française depuis qu'il était devenu général, il s'est aperçu que l'armée française n'était pas à la hauteur pour faire une guerre. D'autant plus que nos voisins allemands avaient constitué une armée qui était la première du monde, à la fois par ses effectifs, son matériel, et par conséquent, il sentait qu'il fallait remanier l'armée française et la mettre au niveau. Quels étaient les points les plus importants à traiter ? Eh bien, dans cette année 1910-1911, il est certain que l'armée, en cas de conflit, devait appliquer un plan de guerre qui était le plan 16 et qui avait été réalisé depuis 1905. Un plan qui était basé plutôt sur la défensive des frontières que sur une offensive initiale. À cette époque, 1910, on n'avait pas une notion très précise du plan allemand, mais on savait que leur chef d'état-major, vers 1905, avait conçu un plan qu'on appelait alors, chez les Allemands, le plan Schlieffen. Et ce plan Schlieffen se réalisait de la façon suivante. Il avait conçu une aile droite de l'armée allemande, une aile droite face à la France, qui serait ultra puissante et qui, dans son mouvement général, aurait pour mission d'envelopper l'armée française en traversant la Belgique par le nord et en se dirigeant sur Paris vers le sud, en contournant Paris, en enveloppant l'armée française qui serait encore bloquée dans sa partie nord-est. Voilà le plan Schlieffen. Quelle était la composition des armées ? L'armée allemande aurait 8 armées. La première armée serait cette aile marchande droite. En France, il n'y avait que 5 armées. Quand Joffre s'est trouvé dans ce Conseil supérieur de la guerre, il s'est aperçu, en particulier, que l'étude des transports en cas de mobilisation n'était pas assez précis pour amener rapidement l'armée française sur la frontière face à l'Alsace-Lorraine et un peu le Luxembourg. On ignorait que les Allemands, par Schlieffen, avaient envie de traverser la Belgique avec des forces en aile droite tellement puissante qu'à tous les coups, ils emporteraient les éléments qui leur feraient face. Mais Joffre, dans sa fonction de commandant des arrières, a cherché à travailler avec précision le transport à la mobilisation. Il a réalisé un code de mouvement des éléments de l'armée française à reconstituer en couverture sur la frontière, par 10 voies de communication qui traversaient toute la France en direction du nord-est. 10 voies. Et, proche de la frontière, des gares de transit pouvant permettre de transporter d'une aile vers l'autre les troupes qui avaient été amenées dans ces régions. C'est sa réalisation la plus importante et qui, au moment de la mobilisation en 14, va se montrer excessivement efficace. Un deuxième élément lui paraissait important, c'était les effectifs réciproques. L'armée française avait 500 000 hommes, l'armée allemande 800 000. Par conséquent, on s'en était déjà rendu compte. Et il était question depuis quelques années de revenir à la loi de 3 ans au lieu des 2 ans. Il s'agissait donc de pousser le gouvernement à adopter la loi de 3 ans. Il cherche à démontrer à cette époque au ministre de la guerre et au premier ministre du gouvernement qu'il fallait hâter cette loi de 3 ans, car en faisant faire aux conscrits une année de plus, ils se retrouvaient à 150 000 de plus. 150 000, ce qui aurait fait une armée française de 650 000. En raisonnant côté allemand, eh bien, si le conflit se déclenchait, ces 800 000, je parle de l'armée d'active, il n'est pas encore question de mobilisation. Alors, l'armée d'active allemande de 800, si le conflit se déclenchait, elle serait, parce que ce dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est les différentes organisations européennes quant aux alliés. Ainsi, la France faisait partie de la triple entente, c'est-à-dire Angleterre, France et Russie. L'Allemagne, c'était la triple alliance, Allemagne, Autriche, Italie. L'Italie, avant que la guerre se déclenche. Et par conséquent, si l'Allemagne déclenchait la guerre contre la France, eh bien, elle serait obligée quand même, du fait des alliances, de se préserver des offensives de Russie. Et par conséquent, elle serait obligée, sur ces 8 armées dont on a parlé, d'en envoyer une, la 8e, sur le front de Prusse orientale. Et cette armée serait de l'ordre de 150 à 200 000 hommes, à retrancher à 800, ce qui la ramenait aux 650 Français. Et par conséquent, il y aurait un équilibre initial entre l'armée française et allemande au moment du déclenchement d'un conflit. À partir de 1911, le vice-président du Conseil supérieur de la guerre, qui était le général Michel, est écarté et on cherche un remplaçant. Initialement, les remplaçants possibles étaient le général Pau, un général célèbre de la guerre de 70, qui était mutilé, et le général Gallieni. Mais les deux généraux refusent de prendre la fonction de chef du Conseil supérieur de la guerre, mais suggèrent de prendre Joffre à leur place. Et donc Joffre est nommé à la tête du Conseil supérieur de la guerre à partir de 1911. Et à ce moment-là, il a les possibilités plus grandes et il va continuer à améliorer l'état de l'armée française. Le plus important, c'est l'artillerie. Certes, nous avons un canon de 75 qui est unique au monde, qui est le meilleur de tous les canons du monde. Mais c'est un canon à tir tendu et par conséquent qui ne peut atteindre un ennemi placé à contre-pente sur des masques, des collines, etc. Alors que l'artillerie allemande est parfaitement organisée avec tous les genres de canons possibles, il faut que la France réalise l'équivalent dans les domaines que nous n'avons pas, c'est-à-dire les canons capables de tirer sur les contre-pentes. Ce sont des obusiers dont les tubes peuvent être braqués en hauteur jusqu'à 45 degrés au moins. Et il faut aussi des canons à longue portée, parce que le 75 ne porte qu'à une dizaine de kilomètres, et des canons lourds pour détruire les abris, les constructions solides d'un champ de bataille. Bref, il y a cette partie qui va travailler, mais il ne tiendra pas, quand se déclenchera la guerre, les résultats qu'il aurait souhaités, car le budget de l'armée est toujours sabré par les politiques. Un autre élément qui entre en jeu et qui est fonction, au fond, de l'accroissement des effectifs de l'armée française et de l'immobilité dans laquelle elle s'est trouvée depuis la guerre de 70, c'est l'instruction. Et pour l'instruction, il faut des camps de manœuvre, des camps pour des grandes unités de la dimension d'une division, mais aussi de la dimension d'un corps d'armée. Il va rechercher à acheter en France un certain nombre de camps pour que l'instruction militaire dans un état de guerre soit perfectionnée. Bien sûr, il n'y a pas que ces problèmes d'artillerie, il y a aussi les problèmes de munitions, et puis il y en a d'autres, une infinité d'autres. Mais le budget de l'armée est toujours sec et par conséquent il a beau s'efforcer de réaliser quand la guerre va éclater en 14, eh bien il n'aura pas réussi à aboutir à ses objectifs d'amélioration de l'armée française. Donc, août 1914, l'Allemagne nous déclare la guerre et se déclare donc cette guerre qui va durer plus qu'elle n'aurait dû. Ce déclenchement du conflit va se produire avec cette surprise pour l'état-major français d'une armée allemande qui va traverser le nord de la Belgique à vive allure et se retrouver rapidement presque aux frontières françaises. Il faut dire que dès l'entrée des Allemands en Belgique, l'Angleterre entre en jeu et déclare la guerre à l'Allemagne et envoie en France une petite armée de 80 000 hommes. Le dispositif que va prendre Joffre va donc s'élargir vers le nord-ouest du fait de la présence des troupes allemandes en Belgique. Et cette aile droite, qui est commandée par le général von Kluck, bien connu, va tomber à hauteur de Mons sur la petite armée anglaise, alors que l'armée française, elle aussi, a pénétré en Belgique pour contrer les Allemands. Et cette armée va se trouver avec sa cinquième armée, qui est à l'aile gauche. N'oublions pas qu'il y a cinq armées françaises. Donc à l'aile gauche, à hauteur de la Sambre et de la Meuse, Charleroi, Namur. Les Allemands enlèvent Liège et tous ses forts en écrasant tous les forts avec des canons de 420 mm et rapidement nous attaquent. Notre plan, qui au début est offensif sous le numéro 17, plan 17, eh bien, est un échec total sur toute la ligne depuis Charleroi jusqu'en Alsace, jusque dans les Vosges. Par conséquent, ce premier temps de notre action doit être transformé par la suite. Nous sommes à ce moment-là le 24 août. Toutes les armées françaises qui avaient attaqué se replient. Joffre change totalement son idée de manœuvre. Alors que l'idée première était offensive, cette fois-ci, par une instruction d'une importance totale et qui va être à l'origine de la victoire de la Marne, eh bien, se traduit par les ordres suivants. Les armées première, deuxième et troisième s'arrêteront sur leur position de repli en défensive et tiendront sur place à la limite de leurs forces. Les 4e, 5e et armées britanniques vont battre en retraite jusqu'à des lignes qu'il définit, qui sont successivement à hauteur de la Marne puis de la Seine, en renforçant ces éléments avec une nouvelle armée qu'il va constituer en prélevant sur les armées 1e, 2e et 3e des corps d'armée. Il va constituer une 6e armée à l'extrémité de l'aile gauche française, au-delà des Britanniques. Ce sera la 6e armée qu'il donne au commandement du général Maunoury. Cette 6e armée sera constituée dans la région de la Somme et pour être constituée à partir du 24-25 août, les corps d'armée seront transportés par voie ferrée et les gares de transit prévues en 1910 rapidement de l'est vers l'ouest. Il va y avoir, d'est en ouest, pendant que l'armée française bat en retraite, 300 trains qui transporteront tous les éléments de ces corps d'armée et des divisions en question. Il faut préciser que la retraite n'est pas une débandade. Les ordres précis que donne Joffre sont de profiter pendant le repli de toutes les coupures du terrain, c'est-à-dire les rivières, les massifs propices, pour s'arrêter, faire un coup d'arrêt et une contre-attaque pour arrêter momentanément l'ennemi en marche. Le but étant de gagner du temps pour permettre le transport à l'arrière des forces de droite vers la gauche. Exploitant les erreurs des premières attaques du début du conflit, Joffre rappelle aux commandants des grandes unités, des brigades, des divisions, des corps d'armée, que tous ces coups d'arrêt doivent être appuyés par l'artillerie. Et les unités d'infanterie qui sont lancées dans ces contre-attaques doivent être fluides et non pas tassées comme elles le furent au début. Nous avons parlé de la première armée allemande de von Kluck, qui est l'aile droite puissante prévue par Schlieffen. Cette aile droite a bousculé l'armée britannique, qui forcément s'est repliée avec l'armée française. Mais entre-temps, ce qui n'a pas été dit, c'est que dans la triple entente, Joffre était allé s'entretenir avec le grand-duc Nicolas de l'armée russe pour lui dire que les Russes, comme les Français, lorsqu'ils se lançaient ou subissaient une attaque, eh bien, ils devaient le faire simultanément, de façon à empêcher que l'armée allemande puisse envoyer à l'est ou à l'ouest, au moment propice, des armées de renfort, c'est-à-dire de stabiliser les effectifs sur les deux fronts. L'armée de von Kluck, qui au départ était trois fois plus puissante que les armées françaises et britanniques qui lui faisaient face, progressivement a perdu des corps d'armée. Des corps d'armée qui ont bloqué les Belges à Anvers, des corps d'armée que le chef d'état-major général Molk de l'armée allemande envoyait en Prusse orientale, où les Russes avaient réussi à s'enfoncer dans la Prusse et provoquer la pagaille pour renforcer la 8e armée, commandée par Hindenburg et Ludendorff. Et par conséquent, au fur et à mesure que cette première armée de von Kluck redescendait vers le sud, elle se trouvait de moins en moins puissante face à son ennemi d'en face. Et donc, lorsque von Kluck arrive à hauteur de la Somme, Monoury, avec sa 6e armée, s'était replié pour protéger Paris, dont le camp retranché était commandé par Gallieni. Ce 6e armée mis à la disposition de Gallieni, von Kluck, au lieu d'appliquer le plan de Schlieffen qui prévoyait d'envelopper Paris par l'ouest et se rabattre par le sud, change cette idée de manœuvre et oblique vers le sud et le sud-est pour envelopper rapidement l'armée anglaise et la 5e armée française. Cette manœuvre vis-à-vis de l'armée française est une erreur tactique, car l'armée française n'était pas en débandade, mais était prête à saisir l'occasion d'une contre-attaque. C'est ce qui va se produire, car les avions que Joffre avait organisés en escadrilles dans les différentes armées aperçoivent le changement de direction de von Kluck, qui va être l'élément de déclenchement de la bataille de la Marne. Car von Kluck déborde la Marne, descend au sud de la Marne, à hauteur des affluents du Grand Morin et du Petit Morin, et se trouve en situation d'être attaqué de flanc en fonction de la vision qu'ont eue les aviateurs de ce changement de direction. Gallieni et Joffre s'entendent, et le 6 septembre, Joffre envoie l'ordre à toutes les armées de déclencher la contre-offensive. Le retournement de l'armée française contre les Allemands est efficace et au bout de 12 jours, le déclenchement se fait le 6 septembre et la bataille va durer jusqu'au 12-13 septembre. Les Allemands, qui par la manœuvre de von Kluck se trouvent dans une situation inquiétante, car la première armée et la deuxième armée de von Bülow se trouvent écartées d'une quarantaine de kilomètres et laissent le passage à un corps d'armée français de Conneau permettant d'envelopper les deux armées. Devant ce risque, les Allemands se replient rapidement, vont atteindre dans leur recul l'Aisne et vont s'y stabiliser en commençant à construire des tranchées. La bataille de la Marne vient d'être remportée par le général Joffre et à partir de cette période, la guerre dite de mouvement va se traduire par la guerre de tranchées et va se stabiliser depuis la Somme jusqu'en Alsace. La bataille de la Marne se termine vers le 12-13 septembre, mais jusqu'à décembre, il y aura une poursuite des opérations à l'ouest. Les deux armées cherchant à s'envelopper vont faire ce qu'on a appelé la course à la mer jusqu'à, en Belgique, à Nieuport, et le front sera stabilisé, donc de la Manche, de la mer du Nord, comme il a été indiqué, jusqu'en Alsace. Mais pour le général Joffre, il y aura l'année 1915 où il va forcément faire des offensives successives dans la Marne, mais elles correspondent à des actions équivalentes des Russes en Galicie, 1915-1916. 1916 est la dure année où on va se battre à Verdun pendant toute une année, mais alors que les Allemands, voulant saigner l'armée française, ne parviennent pas à percer les lignes, ils sont renvoyés dans leur base de départ en novembre-décembre 1916, car entre-temps, Joffre a lancé une offensive sur la Somme en juillet, offensive qu'il avait prévue, et cette offensive face à l'ouest fait reculer les Allemands qui échappent à une percée de l'armée française et anglaise, car les Anglais étaient au nord de la Somme et les Français au sud. La fin de 1916, en novembre, Joffre réunit tous les chefs d'état-major des Alliés pour concevoir une offensive en 1917 sur la Somme au début de 1917. Cette offensive, ayant des moyens supérieurs à la première offensive de la Somme et qui aurait eu un résultat particulièrement positif, car Hindenburg lui-même, qui était devenu le chef d'état-major de l'armée allemande, a dit que l'offensive, si elle avait eu lieu, eh bien les Allemands ne pouvaient pas la supporter et que peut-être la guerre se terminait en 1917 et non pas en 1918. Je reviens à la fin de 1916, les éléments politiques de l'époque, et en particulier le Premier ministre Aristide Briand, qui ne voulait pas perdre son poste, a fini, soumis à l'action des politiques qui détestaient Joffre, finit par écarter le général Joffre commandant l'armée française et le remplacer par un général qui s'était révélé à Verdun, Nivelle. Mais pour tenir compte de tout ce qu'il avait quand même réussi, il est nommé à la dignité de maréchal de France et c'est le 26 décembre 1916 que le président de la République, Poincaré, lui remet son bâton. Devenu maréchal, mais écarté du commandement de l'armée française, Joffre a son bureau à l'école militaire. Il n'y reste pas inactif, car tous les généraux de l'armée française, peut-être pas tous, mais les commandants d'unités de l'ordre de l'armée ou du groupe d'armée viennent prendre contact pour avoir des conseils de ce qu'ils considèrent comme le plus grand d'entre eux, ce qui a été dit par le général Foch. Nous sommes en 1917, début 17, mois d'avril. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne, car l'Allemagne, par sa guerre sous-marine et la destruction de tous les bateaux qui ravitaillent l'Europe, les États-Unis ne peuvent supporter cette action contre les neutres. Et donc, ils déclarent la guerre début avril 1917. Mais qu'est-ce que l'armée américaine ? C'est une armée pas plus forte que l'armée belge. Pas plus de 120 000 hommes. Par conséquent, ce n'est pas avec ce moyen qu'ils peuvent intervenir efficacement. Les états-majors français et anglais souhaitent que des effectifs seulement de l'ordre du bataillon, du régiment, viennent s'intégrer aux unités des armées anglaises et françaises. Le gouvernement français, qui doit envoyer un élément de liaison auprès des États-Unis, envoie comme élément militaire, chef de l'équipe militaire, le maréchal Joffre, car il est disponible et, compte tenu de son expérience de la guerre de 14 à 1916, sera sûrement très utile aux Américains. Joffre, qui connaissait les intentions d'utilisation des soldats américains par petits groupes, ne conçoit pas l'emploi des Américains sous cette forme. Et pendant qu'il traverse l'Atlantique à bord du cuirassé Lorraine, conçoit un plan de réalisation d'une armée américaine qui soit autonome et qui irait dans sa conception dans l'esprit des Américains. C'est ce plan qu'il soumet à Wilson et accepté avec enthousiasme. Le maréchal Joffre, pendant son séjour aux États-Unis, est reçu comme un véritable dieu. Si l'armée américaine a pu être réalisée par l'instruction faite par les officiers français dans des camps en France, eh bien, c'est grâce à Joffre.
C'était donc le général Cortal, le directeur du musée Joffre à Rivesaltes, qui nous contait le parcours extraordinaire du maréchal Joffre, qui, comme nous avons pu l'apprendre, a créé lui-même l'armée américaine appelée par Wilson, ou encore installé les infrastructures de la ville d'Hanoï au Vietnam. Un parcours incroyable que nous avons découvert au micro de Canal Académie.